Nous n'avons pas choisi les textes, ce sont ceux que la liturgie offre à l'Église universelle en ce dimanche du Christ-Roi. Et la première lecture, le chapitre 34 d'Ézéchiel, est une grande colère. Une grande colère de Dieu à cause de la déception qu'il a devant la conduite de ses collaborateurs choisis. Dieu est déçu par les prophètes qu'il avait missionnés. Ils sont devenus des prophètes de cour, de ces beaux parleurs qui plaisent aux princes et aux rois. Ils ont perdu le courage d'affronter ceux dont Amos, un vrai prophète celui-là, dit qu'ils faussent les balances et qu'ils vendent le pauvre pour le prix d'une paire de sandales. Ils ne prennent plus en main et au cœur la cause des pauvres, des veuves, des orphelins. Ils sont devenus des petits profiteurs tranquilles, ne risquant plus rien de leur sécurité. Leur seul souci, c'est de préserver leur place, leurs privilèges, leurs avantages et leur paye. Dieu crie sa déception et il prend une décision. Sa décision, il va s'occuper lui-même de ses brebis. De celles qui vont bien, c'est évident, on ne va pas les laisser tomber quand même. Mais surtout de celles qui sont dispersées dans le brouillard et dans la nuit, fatiguées, égarées, perdues, blessées, faibles, vous avez tous ces mots dans le passage du prophète Ézéchiel. Dieu a pris sa décision puisque ses prophètes sont indignes. Ils sont devenus mous, il va s'occuper lui-même de son peuple. Voilà de quoi nous faire réfléchir, hein, prêtres, diacres, évêques. Dieu peut encore se fâcher contre nous. En tout cas, il va tenir parole, et de la manière la plus surprenante, en nous donnant son Fils. C'est lui qui vient nous réapprendre à être pasteur selon son cœur. Celui que l'Église proclame aujourd'hui roi de l'univers se révèle roi nu, minuscule, pauvre, dans la grotte de Bethléem. Il va se révéler roi infatigable au profit de ceux qui ne sont jamais servis. Roi qui appelle, mais sans forcer les portes. Roi exigeant, mais infiniment patient. Roi renié, trahi, mais riche en pardon. Roi fouetté à mort, mais qui donne sa vie plutôt qu'on ne la lui prend. Roi souffrant, sans doute, mais beaucoup plus de la souffrance des autres que de la sienne. Roi crucifié comme un bandit qu'il n'est pas, mais sûr de la fidélité de son Père. Roi, nous dit saint Paul dans la lettre que nous avons entendue, qui est venu détruire toutes les puissances du mal et qui veut affronter la mort que nous affronterons tous, qui veut affronter la mort pour la détruire. Roi qui veut que sa résurrection soit partagée par chacun, chacune de nous, au jour du jugement, ce jugement dont nous parle Matthieu. Mais voilà, on n'entre pas n'importe comment dans le royaume à venir. On n'y entrera pas en payant. On n'y entrera pas en montrant nos diplômes ou nos médailles. On n'y entrera pas en fonction de nos relations. Le royaume à venir, il s'ouvrira à ceux et celles qui auront fait de leur vivant, avec tous leurs talents, du royaume autour d'eux, là où ils vivent en famille, là où ils travaillent, là où ils prennent leurs loisirs, là où ils s'engagent, et ce qu'ils auront fait de l'évangile du royaume autour d'eux. Le royaume à venir s'ouvrira pour ceux qui n'auront pas trop compté les heures et la peine, à la mesure de leur courage infiniment recommencé, malgré toutes les faiblesses. Les paroles du Christ qu'on vient d'entendre dans ce fameux chapitre 25 de saint Matthieu, elles sont d'une limpidité cristalline. « Venez, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez accueilli, vous m'avez habillé, vous m'avez visité, vous êtes venu jusqu'à moi, mais quand est-ce qu'on t'a fait ça ?» C'est peut-être la plus belle parole qui répond à la question « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Parole d'or pour les païens. Ça, c'est une parole d'or parce que elle nous fait comprendre pourquoi de nombreux publicains, pécheurs, prostituées et autres nous précéderont dans le royaume des cieux. Même s'ils ne mettent jamais les pieds dans une église, même s'ils n'ont jamais eu la joie de connaître le Christ, c'est parce que peut-être qu'au-delà de leurs épreuves et de leurs péchés, ils auront appris à aimer et à servir. Beaucoup d'hommes et de femmes aiment et servent sans connaître Jésus. Et c'est là que le tout petit verset de saint Jean doit nous parler beaucoup. Celui qui aime connaît Dieu, même s'il croit ne pas le connaître, même s'il se dit athée, même s'il ne se risque pas à mettre le bout de son pied sur le pavé d'une église. Qui aime connaît Dieu. Beaucoup de ceux-là entendront « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Et si c'est une bonne nouvelle pour sans doute beaucoup de païens qui savent aimer, c'est aussi une très bonne nouvelle pour nous. Elle nous rappelle la chance infinie que nous avons de connaître le Christ, d'avoir entendu l'Évangile, de nous en nourrir. Mais la chance, ou en vocabulaire chrétien, la grâce, s'accompagne toujours d'une mission. Si nous avons la chance de le connaître, c'est pour la mission d'en vivre et de le donner. Et là, nous devons nous questionner. Est-ce que nous sommes de ceux et de celles qui inlassablement, ou en tout cas en recommençant, si on s'est arrêté de le faire, Reprenne en main la cause des pauvres, reprenne à cœur la vie de ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont nus, ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades. Est-ce que notre foi nous met en chemin de charité ou pas? L'amour seul est digne de foi. Le service seul est digne de foi. Servir les moins bien servis avec imagination, avec détermination, au prix s'il le faut, de la fatigue et du dérangement, des heures qu'on ne compte pas trop, servir. Bertrand, Jacques et Yves-Marie, sans employer le mot, je n'ai parlé que du diaconat, en reprenant les lectures d'aujourd'hui. Si vous devenez diacre, ce que l'Église me demande, ce pourquoi l'épouse de chacun de vous est d'accord, c'est pour réveiller en nous tous le courage de servir. Les diacres ne sont diacres que pour que nous vivions tous en serviteurs. La grâce du diaconat. Ils sont les quelques-uns pour réveiller tous. C'est pour réveiller en nous le courage de servir s'il nous manquait. Le courage de recommencer à servir et sans nous payer de mots. C'est pour remettre toute notre Église en état de service, en état de servir le monde. L'Église, elle n'est pas faite pour elle. Elle n'est pas faite pour assurer son bon fonctionnement. Elle n'est faite que pour servir tous les hommes et toutes les femmes de notre monde. Et en premier, ceux qui souffrent le plus. Et pour les diacres, ceux qui souffrent le plus dans leur famille. Il y en a tellement aujourd'hui. Dans leur famille, ces familles que vous connaissez mieux que nous. Dans leur famille et dans leurs entreprises. Vous êtes tous les trois dans le milieu de l'entreprise. Un milieu difficile. C'est pas simple de garder la passion pour l'homme et le service de l'homme dans les contraintes gigantesques d'une économie de plus en plus dure et internationale. Pourquoi nous compliquons toujours la foi très simple? Je me pose souvent cette question. Notre foi, elle s'appuie sur le roi de l'univers, le roi de cœur qui est le nôtre, pour redonner du cœur au monde. Dieu sait si nos sociétés en manquent, rien de plus, rien de moins. Un grand frère évêque que j'aime bien, à la retraite depuis longtemps, mais encore parmi nous, Monseigneur Mazier, l'ancien archevêque de Bordeaux, le disait d'une façon lumineuse, le diacre est ordonné pour que le peuple où il est envoyé devienne à son tour un peuple de serviteurs et redonne ainsi au monde le goût du service. Amen.